la recherche si dans les journaux scientifiques, dans les magazines scientifiques, on allait trouver quelques poissons d'avril pour la bonne vieille tradition française. Existe-t-elle dans le domaine scientifique ?
La tradition existe, mais nous n'allons pas dévoiler aujourd'hui ce qu'il y a de qui relève du poisson d'avril dans nos numéros respectifs, aux lecteurs de faire leur travail.
Je sais, ça voilà. Partez à la pêche
et s'amuser. Hein.
Partez à la pêche et en même temps, ça permet de découvrir les journaux, Gérard.
Voilà.
N'est-il pas, c'est une belle accroche. bonjour à vous aussi, Jean-Louis Dessalles. Bonjour, vous êtes notre invité aussi aujourd'hui, puisque vous publiez dans La Recherche un article consacré aux origines du langage. Mm-hmm. Vous êtes chercheur à l'École Normale Supérieure des Télécommunications.
Nationale Supérieure.
J'ai dit normale.
Oui, Alain.
Chercheur à l'École Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris. Voilà, nationale.
Ça fait.
Bon, c'était pas normal ce que j'avais dit. Hein. Vous êtes auteur, vos derniers ouvrages, je vais les citer, L'ordinateur génétique, aux origines du langage. Chez Hermès, donc ça s'est paru en l'an 2000. Une toute petite question comme ça, c'est un chercheur en télécommunication qui s'intéresse au langage, c'est quelque chose d'anachronique ou c'est, j'allais dire, c'est normal, vous n'êtes pas un linguiste?
Ah, je ne suis pas un linguiste au départ, mais je travaille sur le langage. Et dans télécommunication, il y a le mot communication. Mm-hmm. Donc, pendant longtemps, effectivement, dans les télécoms, on s'est surtout intéressé aux tuyaux pour transmettre des conversations, des langages. Mais de plus en plus, on s'intéresse au contenu, notamment avec le web. Le problème est plus un problème d'aiguillage vers l'information utile. Et donc, pour aiguiller les utilisateurs vers l'information utile, il faut commencer à s'intéresser au contenu. Mm-hmm. Et à ce moment-là, on en vient à des questions assez fondamentales, très vite, qui est... pour quelles raisons les gens communiquent et que veut dire la pertinence, quelle est l'information pertinente qui va intéresser quelqu'un. Et donc, effectivement, on arrive vers des questions encore plus fondamentales sur l'origine de cette pertinence, pourquoi on communique et pourquoi notre espèce communique. Et par ce biais-là, et par le biais de la modélisation aussi, on en vient à proposer des solutions pour quelque chose qui est quand même un mystère, qui est, nous sommes la seule espèce à avoir un langage et... Pourquoi ?
Et pourquoi ? Bah écoutez, merci de nous avoir introduit ce sujet dont nous allons parler en votre compagnie et en celle de Gérard Chevalier. Je voulais juste faire un petit biais en passant, parce qu'on avait démarré par le poisson d'avril, Gérard, mais vous donnez un petit peu dans l'étude du mensonge, dans la recherche ce mois-ci, puisqu'il y a un papier très intéressant qui s'appelle « Les tours et les détours du détecteur de mensonges » ou « La capacité de tromper ». En tout cas, une chose moi que je ne savais pas du tout, c'est que tous les ans, et en particulier cette année, près d'un million de tests de personnes sont passés au détecteur de mensonges aux États-Unis. Alors ça, j'ignorais complètement cette affaire-là. Ouais,
et en fait, cette pratique-là est très ancienne. Elle date des années 20, même si on trouve des origines dans les années 1910 à l'université de Harvard. Donc c'est un instrument qui a été développé à l'intérieur d'universités prestigieuses entre toutes et qui ensuite s'est diffusé dans la société américaine par l'intermédiaire de la police, puisqu'il s'agissait dans les années 20 en fait de moraliser la police, notamment à Chicago, qui en ces temps de prohibition... Mais enfin, il y avait l'idée à l'époque, l'ambition, que grâce à des instruments qui enregistraient les réactions physiologiques du corps, on allait pouvoir détecter chez des individus, soit des policiers a priori corrompus, soit des suspects, qu'on allait pouvoir détecter en fait quand ils mentaient lors d'un interrogatoire. Et après, jusque dans les années 50, là cette pratique s'est complètement généralisée et ça fait en fait effectivement près de 50 ans que aux États-Unis près d'un million de tests au détecteur de mensonges sont pratiqués tous les ans.
Alors la fameuse question, c'est comment ça marche le détecteur de mensonges? Alors votre auteur dit on enregistre quatre paramètres physiologiques: la pression sanguine, la résistance électrique de la peau, le rythme cardiaque et la respiration. Mais tous les comités scientifiques qui ont étudié la question sont formels, pipo et archipipo quand même.
Voilà, alors c'est effectivement une histoire très compliquée, parce qu'il y a l'instrument, la méthode plutôt, d'utilisation du détecteur de mensonges fait appel à un hardware, ces enregistrements physiologiques, et aussi un software, un logiciel, une façon de poser les questions qui permet de calibrer le détecteur et de mettre l'interrogé en situation pour détecter éventuellement ses mensonges. Et alors, il est vrai que dans le monde universitaire, d'où encore une fois est sorti l'instrument, les psychologues depuis de nombreuses années ont montré que dans des situations dites en double aveugle, le détecteur marche pas si bien que ça, même il marche aussi bien que le hasard, un coup sur deux. Mais en fait, la situation n'est pas si résolue que ça, puisque dernièrement, l'Académie des sciences américaine, quand même la plus prestigieuse académie scientifique aux États-Unis, a décidé d'investir $1 million pour évaluer la fiabilité de cet instrument. Donc, d'une certaine manière, l'affaire n'est pas totalement close, en tout cas, du point de vue de l'Académie des sciences américaine.
Voilà, la conclusion, elle est quand même assez drôle, c'est que pour que ça fonctionne, entre guillemets, ou en tout cas que ça donne des résultats qui soient acceptables. Il faut quand même rappeler, Gérard, que ce n'est pas reconnu par les tribunaux américains, quand même.
Depuis les années 20, dès le début, en fait, les tribunaux américains, par une décision de justice qui est même montée jusqu'à la Cour suprême, interdisent l'utilisation d'instruments scientifiques dont la qualité n'a pas fait l'objet d'un consensus parmi les experts, ce qui est le cas du détecteur de mensonges. Donc, en fait, la justice n'accepte pas les preuves fournies par le détecteur de mensonges, mais la police se sert du détecteur de mensonges pour, en quelque sorte, forcer les aveux des suspects qu'ils ont en garde à vue.
C'est ça. Votre conclusion, c'est de dire, finalement, ça ne fonctionne que si les opérateurs mentent et que si le public y croit. Alors, à partir de là, ça fait tellement peur que ça peut permettre de faire craquer.
La subtilité du truc, c'est que pour que ça fonctionne, en fait, il faut que les gens soient persuadés que ça fonctionne. Et pour ça, en fait, dès le début, le premier utilisateur, celui qui en a fait vraiment la promotion, l'industrialisation, etc., il avait inventé un truc. La personne qui l'interrogeait, il lui montrait un jeu de cartes, il lui demandait de choisir une carte, et puis ensuite, il les battait toutes les cartes, et puis il les retournait une à une, et l'interrogé devait dire à chaque fois, non, ce n'est pas ma carte, non, ce n'est pas ma carte. Et donc, il y avait bien une fois où il mentait. Alors ensuite, l'interrogateur allait regarder les tracés graphiques et disait, voilà, regardez, là, c'est celle-là, je vois bien, puisque sur mes tracés, je vois qu'il y a un bond, donc vous avez menti à ce moment-là. Donc, en fait, l'interrogé, il était à ce moment-là confondu, et puis il était donc persuadé que la machine marchait. Or, en fait, le jeu de cartes est truqué. Et donc, l'ensemble de la procédure est basé sur un mensonge au départ. Et c'est le côté fascinant de l'affaire, et c'est toujours le cas d'ailleurs, sinon ça ne marche pas. Mais enfin, je voudrais quand même finir là-dessus, avant qu'on passe à un autre sujet, Alain. On aurait tendance à dire, ils sont fous ces Américains, non?
On s'avoue, pour que ça n'a pas marché en France. Hein.
Ça n'a pas marché en France, mais en France, on a quelque chose qui, par certains aspects, peut rappeler le détecteur de mensonges, c'est la graphologie. Parce que la graphologie en France est largement utilisée dans les cabinets de recrutement, et pourtant, un grand nombre d'études académiques ont montré que ça ne marchait pas.
Bon, et c'est pas reconnu non plus par les tribunaux.
C'est pas non plus reconnu par les tribunaux. Donc, nous avons, nous aussi, notre petite spécificité en matière de reconnaissance de la loyauté de quelqu'un.
Alors, toute petite pastille, comme on dit, le mensonge existe aussi dans la nature. Vous publiez un petit papier expliquant le coucou. Alors, je sais pas si vous avez vu ce papier, Jean-Louis Dessalles. Le coucou, cet animal qu'on connaît tous, hein, qu'on entend au printemps dans les arbres, là, avec ce cri tout à fait caractéristique, qui est un fief menteur, qui d'une part occupe les des autres, enfin en tout cas,
va déposer ses œufs dans les nids des autres,
mais en plus avec un mimétisme absolument incroyable, puisqu'il réussit à fabriquer, à pondre des œufs, entre guillemets, de la même forme, parfois de la même couleur, avec le même piqué que les œufs déjà existants. Ça, c'est extraordinaire.
Oui, chez certaines espèces, c'est tout à fait vrai, mais il y a des choses encore plus étonnantes, enfin, moi que je trouve encore plus étonnantes, chez certaines espèces. Le poussin qui sort, donc qui est le poussin coucou, qui sort au milieu d'une nichée d'autres oiseaux, il est le premier à sortir, et à ce moment-là, il est encore sourd et aveugle, et son premier truc, c'est de jeter hors du nid tous les autres œufs, qui sont les œufs de l'oiseau hôte. C'est tout à fait curieux, quand même. Ouais.
Alors, j'ai même vu qu'il y avait des pratiques mafieuses. Alors, moi, j'ai appris ça. J'ai trouvé ça fantastique. C'est-à-dire que, si j'ai bien lu l'article, on voit que des parents coucous donc, vont pondre dans d'autres nids et arrivent à s'en souvenir. Mmh. Et donc, si après les parents, l'hôte va jeter le nid l'œuf qui a été pondu par le coucou, à ce moment-là, le coucou se venge.
Oui, c'est donc, une mesure de rétorsion.
Voilà, les mesures de rétorsion sur les œufs. Alors, c'est un véritable racket. Enfin, donc, ça, c'est tout à fait impressionnant.
Il y a même un article scientifique qui a été publié avec un titre qui faisait allusion explicitement au comportement mafieux des coucous.
Voilà, ça s'appelle Cosa Nostra chez les coucous pour parasiter le nid des autres. Tous les moyens sont bons. Je vous encourage vraiment vivement à le lire parce que c'est vrai que c'est instructif. J'allais dire, c'est pas sauter du coq à l'âne, Jean-Louis Dessalles, mais est-ce que finalement, c'est-à-dire le langage qui est une, vous l'avez dit tout de suite en introduction, hein, qui est propre à l'être humain, qui a apporté le mensonge, qui a apporté la vérité aussi, mais qui a apporté l'interrogation, la discussion, mais aussi le mensonge. Est-ce que ce mensonge, j'allais dire, n'existait pas déjà dans la nature, comme on peut le voir là? Est-ce que la capacité de langage n'est jamais qu'un mimétisme de ce que l'on peut voir dans la nature?
Oui, et puis d'abord, vous employez le mot mimétisme. Le mimétisme est un mensonge, déjà. Quand vous voyez qu'il y a certains papillons qui sont parfaitement comestibles pour leurs prédateurs, mais qui imitent par les décorations des ailes, vont imiter des papillons qui, eux, ne sont pas comestibles, là, on a un mensonge. Mmh. Ils vont se faire passer aux yeux du prédateur pour un papillon qui a très mauvais goût pour le prédateur, alors que eux, apparemment, ils sont tout à fait comestibles. Donc on peut le montrer par les essences. Donc déjà, le mensonge existe dans la nature. Et c'est d'ailleurs une des meilleures explications qu'on a du fait que le langage n'existe pas dans la nature. Donc en fait, c'est le langage humain qui est bizarre. C'est que nous pouvons mentir avec le langage, mais la plupart du temps, nous ne mentons pas. Et ça c'est vraiment le fait à expliquer. Bon, parce que, voilà, il faut aussi, c'est tellement facile de mentir avec des mots qu'on se demande pourquoi nous ne le faisons pas plus souvent. Donc c'est ça le vrai paradoxe.
Incitation à la débauche, ça s'appelle. Alors, avec vous, Gérard Chevalier, je voulais aborder effectivement ce dossier paru dans la recherche qui est « Pourquoi parlons-nous aux origines du langage ?» Et tous les gens avec qui j'en ai parlé trouvent évidemment la question particulièrement fascinante parce que nous sommes, vous l'avez dit, la seule espèce à parler, mais aussi nous ne savons pas, ou en tout cas, dès qu'on essaie de dresser l'origine, ou savoir si la question d'origine a un sens d'ailleurs, remonter, savoir pourquoi et à partir de quand nous parlons, eh bien on se heurte à un mur qui est un mur où il n'y a pas de fossiles, un mur où il n'y a pas de témoins évidemment, mais aussi un mur où fleurissent les hypothèses. Et à travers la recherche, trois hypothèses sont présentées, dont la vôtre, et j'allais dire la première question qui vient à l'esprit, c'est est-ce que nous avons même un tout petit peu des éléments de comparaison dans la nature aujourd'hui? Est-ce que les chimpanzés, les grands singes que nous étudions depuis une trentaine d'années nous donnent des informations sur la façon dont nous, qui venons d'une famille très proche, avons fait la différence aussi par le langage? Et quand cela s'est passé?
Ah oui, alors, bon, d'abord, dans l'état actuel de la connaissance, c'est spéculatif, hein, c'est-à-dire qu'actuellement, on n'a aucune preuve directe, évidemment. Comme vous l'avez dit, le langage ne laisse pas de fossiles. Et donc, on est obligé de fabriquer des théories. Alors, vous pourriez dire, on met des théories, on en fait autant qu'on veut, comment choisir? Alors, ce qui est intéressant et passionnant sur la recherche sur les origines du langage, c'est que, précisément, c'est le contraire qui se passe. C'est très difficile de faire des théories cohérentes. Parce que le langage a l'air paradoxal.
Et paradoxal.
Paradoxal, c'est-à-dire que dans le cadre darwinien dans lequel les chercheurs se placent, on a beaucoup de mal à comprendre pourquoi, dans notre espèce, les individus passent le plus clair de leur temps, pas le plus clair de leur temps, disons un cinquième de leur temps éveillé, ce qui est considérable. Ils passent donc énormément de temps à donner des informations potentiellement utiles à leurs congénères. Mais ça c'est bizarre, parce que dans les autres espèces animales, le principe darwinien, c'est qu'on va surtout se préoccuper de sa propre survie et de sa propre reproduction, et pas trop de celle des copains. Hein. Donc on va... on ne comprendrait pas pourquoi on attirerait l'attention des congénères sur des informations, sur des événements de l'environnement, par exemple, qui seraient pertinents, comme une nouvelle source de nourriture, un nouveau danger. On connaît bien sûr le cas du cri d'alarme chez les animaux, mais il est très controversé. C'est-à-dire qu'on n'est même pas sûr, il y a des théories récentes qui tendraient à montrer que le cri d'alarme n'est pas tellement dirigé vers les congénères, mais dirigé vers le prédateur.
Ah oui, ça vous dit que quand les oiseaux se mettent à hurler parce qu'un prédateur arrive, c'est surtout pour lui faire savoir qu'il a été repéré plutôt que pour alerter les autres.
Donc il va perdre son temps à essayer d'avoir un effet de surprise. Donc ça, c'est la théorie de l'éthologiste israélien Zahavi, Amos Zahavi, qui a vraiment cette idée un petit peu décapante, hein, qui est que le cri d'alarme est plutôt dirigé vers le prédateur.
Alors, il dit, on peut imaginer que ça serve aux deux.
Voilà.
Alors, une des premières idées, vous l'avez amorcé là, elle est développée comme étant celle de la théorie sociale, le lien social qu'est le langage. Vous dites 20% du temps, c'est aussi ce qui a été remarqué chez les grands singes quand ils s'épouillent. Vous expliquez, enfin, l'auteur explique plus exactement, parce que c'est pas vous là, que c'est un élément de sociabilisation, une certaine relaxation. Et que nous avons un épouillement social, entre guillemets, ou un langage d'épouillement, je ne sais pas exactement. Mais il y a une fonction là qui peut être liée à une fonction purement sociale.
Alors oui, ça c'est la thèse de Robin Dunbar, qui signe le premier article de ce dossier. La première fois, moi j'ai entendu parler de cette thèse début avril, il y a quelques années.
C'était un 1er avril aussi.
C'était un 1er avril. Alors quand j'ai vu le titre, j'ai cru que c'était la blague.
Les singes, c'est vous, les hommes parlent.
Voilà. Et en fait, pas du tout. Et puis j'ai appris à connaître cette thèse elle m'a énormément plu. L'idée, c'est de comparer l'épouillage chez les singes. Alors chez la plupart des primates, mais ça se voit très bien chez les chimpanzés. Ça se voit même, paraît-il, chez les humains, mais un peu en cachette. Donc chez les chimpanzés, ils passaient énormément de temps. Pareil, à peu près 20% de leur temps à s'épouiller, à chercher des soi-disant parasites dans le pelage. Et en fait, bon, la plupart des éthologistes interprètent cela comme un signe d'investissement dans une amitié. Hein. C'est-à-dire qu'on va passer du temps. Donc en fait,
plus de temps qu'il n'en est nécessaire pour l'hygiène.
Oh là, largement, oui. Puis même, cette hygiène est très discutable. Mm-hmm. Jane Goodall dit même qu'elle n'a pas trouvé de parasites dans le pelage de ses chimpanzés en Afrique. Bon. Mm-hmm. Alors, en tout cas, bon.
Et à partir de là, naît un babil, un bavardage, des grognements.
Alors, chez les chimpanzés, on n'en est pas là. L'idée, c'est que c'est simplement un gage d'amitié. Et donc, si on va passer 20% de son temps à épouiller deux ou trois individus, c'est un gage de fidélité parce qu'on ne peut pas aller faire pareil avec d'autres. Donc,
on renforce un lien social.
Voilà, c'est l'idée de donner un gage pour un lien social. Et l'idée de Dunbar, c'est que comme la taille des groupes a augmenté chez les humains, chez nous les proto-humains, chez les hominidés, donc on peut penser à Homo erectus et même ses prédécesseurs, l'idée de Dunbar, c'est que le langage a remplacé l'épouillage dans cette fonction-là.
Alors, deuxième hypothèse, je vais arriver à la vôtre en troisième. Deuxième hypothèse, c'est l'idée que le langage gestuel a précédé le langage parlé. Alors, ça, c'est aussi une démonstration, en tout cas une hypothèse qui est fortement développée dans les papiers publiés là, en disant, nous parlons avec nos mains, il suffit de nous regarder, là, on est à la radio, ça. c'est un petit peu plus difficile, mais on peut l'imaginer quand on essaie de convaincre, quand on est justement dans la position de celui qui essaie d'influencer l'autre. Nous avons des mimiques, nous avons des gestes, nous avons un comportement qui laisse imaginer qu'il y a un langage gestuel qui aurait pu précéder le langage parlé.
Voilà, ça c'est la thèse de Michael Corbalis, donc Corbalis qui signe le troisième article du dossier, et qui est très impressionné par le fait effectivement qu'on gesticule en parlant. Donc il y a une expérience que tout le monde peut faire à la télévision, il suffit de couper le son pendant un débat, et d'essayer de reconstituer ce que les gens disent à partir des gesticulations. C'est pas toujours facile, mais en tout cas on reconstitue facilement les émotions, mais sans doute bien davantage. Alors cette omniprésence de la gestuelle, qu'il faut bien dire, alors cette gestuelle-là est inconsciente, hein, on n'est pas conscient de ce qu'on fait si on nous passe une vidéo d'une discussion qu'on vient d'avoir et qu'on nous montre nos gestes, on dit, ah bon, j'ai fait ce geste-là, on n'en est pas conscient. Très différent de la langue des signes des sourds, c'est comme les mots qu'on emploie, on est conscient des mots que nous emploie, enfin, nous sommes conscients des mots que nous employons. De même, les sourds sont parfaitement conscients de ce qu'ils utilisent comme gestuel.
Alors là, j'ai découvert justement qu'il y avait un véritable langage complexe pour les sourds. Aussi bien le langage des signes que les langages qui sont les langages gestuels sont avec une grammaire, sont avec une syntaxe, sont éminemment complexes et aussi compliqués que le langage vocal.
Oui, alors ça c'est... Avant, on ne s'en doutait pas, c'est-à-dire jusqu'à l'époque de la Révolution française, les sourds étaient maintenus chez eux. Un sourd qui est isolé chez lui, il a une vingtaine de signes avec sa mère, c'est-à-dire rien du tout. Et si on les socialise, si on les met entre eux, et ça s'est fait plusieurs fois dans l'histoire, mais assez peu décrit, hein, mais c'est chaque fois le même résultat spontané, ces malentendants ou ces sourds créent une langue des signes avec une grammaire, avec des accords, des marques d'accord, avec des conjugaisons, donc des indications pour le temps, donc en fait, on retrouve, un linguiste n'est pas perdu quand il analyse cette langue des signes, on retrouve à peu près, avec quelques petites différences, on retrouve en tout cas la même complexité que dans les langues humaines.
Alors vous, Jean-Louis Dessalles, vous développez et vous soutenez l'idée expérimentale, puisque vous avez fait un ensemble de travaux informatiques d'une origine politique du langage. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce qu'est cette idée? Ouais,
alors voilà, donc, ça peut surprendre. Moi, je ne travaille pas sur le terrain de la sociologie. Je ne suis pas comme Dunbar, je ne suis pas primatologue. Donc, comment puis-je parler du langage? Bon, comme vous l'avez dit, je suis informaticien, enfin, je suis ingénieur, et je fais des modélisations, des simulations avec l'ordinateur. Et ça nous permet de réaliser un vieux rêve, hein, qui était, si Darwin avait pu rêver de reproduire l'évolution dans la mémoire d'une machine, il aurait sauté sur l'occasion. Donc maintenant, c'est vraiment ce qu'on peut faire. On va pas se contenter de faire des théories, des conjectures sur telle ou telle possibilité d'évolution, on peut le tester sur la machine. Hein. Donc ça, c'est la méthode de travail. Mm-hmm. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, sur l'évolution du langage. Alors les premiers résultats sont, alors c'est ça qui est passionnant, c'est que les premiers résultats sont plutôt négatifs. C'est-à-dire qu'on va tester différentes hypothèses qui ont été considérées comme valables pendant des années, on s'aperçoit qu'elles ne tiennent pas.
Comme par exemple.
Alors, première idée, le langage est manifestement, de manière évidente, utile à l'espèce et au groupe. Alors, c'est chaque fois qu'on emploie le mot évident, ça veut dire qu'on est bien embêté pour le démontrer. Et d'ailleurs, c'est faux. C'est-à-dire que, si on complète pas le modèle tel quel est faux. C'est pas parce que quelque chose est utile à l'espèce ou au groupe que ça va être retenu par la sélection naturelle. Alors, pour le comprendre, il suffit de, on parlait du mensonge tout à l'heure. Bien, c'est une situation rêvée pour les tricheurs. Hein. C'est un peu comme l'impôt. Par exemple, l'impôt est utile au groupe. Hein, mais moi, je ne connais pas d'impôt volontaire sans autorité qui soit vraiment volontaire. Hein. La meilleure stratégie, c'est de laisser payer les autres et puis de profiter de ce qu'ils donnent sans rien donner. Bon, c'est pareil pour l'information. Si dans un tel scénario où on donnerait de l'information uniquement parce qu'elle est utile aux autres, donc c'est un scénario complètement désintéressé, le tricheur qui se contente d'écouter et de garder ses propres informations pour lui, il est gagnant. Donc imaginez des tuyaux pour jouer en bourse ou des tuyaux pour les surfistes. Imaginez, je vais donner les tuyaux aux copains et puis moi je garde les miens.
Alors, est-ce que pour autant l'information et donc le langage est une marchandise?
Alors bon, moi je défends la thèse que c'est précisément pas une marchandise, c'est-à-dire que il y a des scénarios qui continuent à considérer que c'est une marchandise, qui sont plus élaborés que ce scénario d'utilité pour l'espèce. Donc vous avez le scénario coopératif, hein, le scénario donnant-donnant, hein, mais ça reste une marchandise dans ce scénario. L'idée, je vous donne une information maintenant parce que je sais que demain vous allez me donner une information de même qualité. Donc ça peut marcher peut-être pour les tuyaux, pour jouer sur les chevaux. Je sais que demain, mais bon, si jamais je vous donne comme ça deux, trois bons renseignements et que je m'aperçois que vous renvoyez jamais l'ascenseur, je vais arrêter. Mmh. Et donc ça, c'est un modèle qui est dans la communauté scientifique qui a une certaine notoriété, mais quand on le simule sur ordinateur, on voit que c'est un modèle qui peut marcher, mais dans des conditions qui ne s'appliquent pas au langage. Alors pourquoi? Parce qu'il faut une très très bonne détection des tricheurs. Hein. Il faut se souvenir. Pour donner une idée, ça marche très bien.
Un détecteur de tricheurs.
Mais pour qu'il marche, il faut que l'expérimentateur mente lui aussi. Oui, ça devient compliqué.
Alors oui, c'est ça, ça devient très machiavélique. Et donc un système comme ça, on voit mal comment il pourrait émerger et se maintenir dans une espèce non communicante au départ. Hein, l'idée, c'est ça se voit bien pour les services rendus. Hein. Si vous rendez des services à une personne et qu'elle vous renvoie jamais l'ascenseur, vous arrêtez. Et donc, il faut vraiment se souvenir de ce qu'on a dit, à qui on l'a dit, et de vérifier. Et puis, ça ne marche que si on parle à une seule personne à la fois. Or, dans le langage, c'est pas du tout ce qu'on voit. Hein. On voit que les gens, il y a des bavards partout. Mmh. On le démontre aujourd'hui. Il y a des bavards et ils se dépêchent pour donner leurs meilleures informations à tout le monde. Et donc, ce n'est pas du tout le scénario donnant-donnant qui s'applique.
Alors, où arrivez-vous? Quelle est votre conclusion?
Avant la conclusion, il y a l'hypothèse de départ.
Oui.
L'hypothèse de départ, c'est de dire qu'effectivement, le langage n'est pas une marchandise. C'est, même s'il a une valeur potentielle, hein, je peux donner un renseignement au hasard d'une conversation qui peut se révéler très utile ou essentielle à l'autre, mais la plupart du temps, nous parlons de la pluie, du beau temps, de choses qui sont de moins d'importance. Donc l'idée, bon, moi je rejoins pas mal l'idée de Dunbar, de dire qu'effectivement tout se passe au niveau du lien social. Mais c'est pas tout de le dire, et il faut préciser de quel lien social il s'agit. Et l'idée, puisque le scénario donnant-donnant ne fonctionne pas, il s'agit de le remplacer par un autre scénario, et le scénario que j'ai proposé est un scénario qu'on peut qualifier de politique. C'est-à-dire que l'objectif, l'idée, je me place dans un contexte un peu plus général, qui est inspiré de l'observation des primates, hein, que font les primatologues, et qui est que la structure du social des primates qui nous ressemblent, à commencer par les chimpanzés, est une structure politique.
C'est-à-dire
voilà, les individus, alors c'est ce qu'a montré Franz De Waal, et
oui,
Franz De Waal, il y a une interview
dans le numéro de la recherche. Hein.
Voilà, donc Franz De Waal, il a écrit il y a une vingtaine d'années, un livre qui s'appelle Chimpanzee Politics, la politique des chimpanzés, et dans lequel on observe des choses passionnantes. On voit des individus dans la troupe de chimpanzés qui s'allient pour arriver à renverser le pouvoir, même s'ils sont moins costauds que le plus fort. Ils vont s'allier à deux ou trois, et ils vont arriver à prendre le pouvoir et à le partager après. Donc en fait, c'est ça, l'alliance pour la conquête du pouvoir s'accompagne d'une notion de partage du pouvoir après.
Toujours sans langage. Hein.
Voilà, sans langage.
Ouais.
Alors, l'idée, c'est que c'est dans ce contexte-là que mon hypothèse, c'est que c'est dans ce contexte-là que notre capacité à parler a évolué. Alors, vous pourriez me dire, mais pourquoi pas chez le chimpanzé? Pourquoi chez nos ancêtres?
Pourquoi pas chez le chimpanzé?
Voilà. l'idée, et là aussi, je pille encore un petit peu Dunbar, c'est encore cette idée d'augmentation de la taille des groupes et surtout de la taille des coalitions. On peut penser, pour une raison qui nous échappe encore, que nos ancêtres formaient des coalitions un peu plus nombreuses que celles des chimpanzés. Et donc, les chimpanzés vont s'allier sur la base de la force physique. Et donc, ils vont montrer leurs muscles. Hein. Et on voit sans arrêt, les chimpanzés font faire des grandes démonstrations de force.
Il y a encore quelques hommes qui font ça aussi.
Tout à fait, ça marche aussi encore chez les humains. Mmh. Surtout aussi dans les cours d'école.
Hein. Oui, c'est
vrai. Mais l'idée, c'est que quand la taille des coalitions augmente, il n'y a pas seulement la force physique qui intervient. Et l'hypothèse, c'est que la capacité à savoir avant les autres devient très importante. C'est-à-dire que quand il faut savoir qui est avec qui, arriver aux sources de nourriture avant les autres et prendre le pouvoir, si c'est plus la force physique qui intervient, c'est peut-être la capacité à acquérir l'information avant les autres.
Mmh.
Alors l'hypothèse, c'est que le langage n'est pas une manière seulement de donner de l'information, c'est de montrer qu'on est capable de l'acquérir. Hein, celui qui sait avant les autres. Ça se voit très bien sur les petits-enfants. Hein. Le premier qui a vu, moi j'ai un extrait sur des enfants qui voient les montgolfières, le petit gamin qui dit « Ah regarde, il y a encore les montgolfières aujourd'hui ». Et son frère dit « Ben oui, j'ai déjà vu ». Et l'autre lui dit « Mais tais-toi, c'est pas à toi que je parle, c'est aux parents, c'est aux autres ». Et il veut absolument être le premier à avoir vu, le premier à le signaler. Et on peut penser que c'est ce que faisaient nos ancêtres. Hein, voilà. On le fait encore, nous, en tant qu'adultes, dès qu'on voit quelque chose de très étonnant, on va le montrer, même du geste, hein, ça rejoint l'idée de Cordani, ça a pu commencer par le geste. On montre ce qui est étonnant, donc si brusquement on voit, quelqu'un en train de faire du rappel sur la façade de l'immeuble, on va se dire, regarde ce qu'il fait, ou s'il est déguisé en panthère rose, enfin, on peut pas, c'est un réflexe, on va le signaler.
Jean-Louis Dessalles, vous signez donc dans la recherche ce papier consacré à l'origine du langage, politique du langage, numéro de la recherche, Gérard Chevalier, qui est en kiosque le 1er avril, voire un tout petit peu avant, avec du mensonge, pas en couverture, mais à l'intérieur, et de la réalité, de la vérité. Merci à vous, merci à vous deux. Excellente journée sur Europe 1.